Mission Vision avec Alain Renaud.
Bien bonjour et bienvenue à cette 20e émission de Mission Vision. Et oui, déjà la 20e, et puis ben c'est un privilège offert par Canal M et leur âme d'animer cette émission. Mon nom est Alain Renaud, je suis le recherchiste animateur de cette émission maintenant pour une 20e. Et puis réalisé en compagnie d'un incroyable attentionné complice qui est à la régie, et j'ai nommé Mathieu Tessier. Et puis ben pour cette 20e, je nous fais le plaisir en passant l'heure avec une autre de mes complices de différents projets. Et puis ben je vous la présente dans quelques instants. Je reçois donc une complice, comme je vous disais, avec qui j'ai eu le grand plaisir de travailler, de collaborer sur différents projets, dont on pourra glisser quelques mots aujourd'hui, mais je vais surtout vous présenter Evelyne Payette-Dalpé pour un projet en particulier sur lequel elle a travaillé et continue de travailler. Donc, je vous la présente, doctorante en études des pratiques des arts, conseillère en accessibilité culturelle et aussi professionnelle de recherche. Bonjour Evelyne.
Allô, allô Alain.
Alors, très mauvaise présentation, j'en suis sincèrement désolé. Ça doit être l'énervement de la 20e. Écoute, on passe une heure ensemble parce que je pense que, comme tu disais tout juste avant d'entrer en onde, tu fais beaucoup de choses en ce moment. Et puis, ça fait en sorte que tu as beaucoup de choses à nous raconter. Alors, je suis pas inquiet pour comment l'heure va se dérouler. Mais on s'est rencontrés. Tout d'abord, je voudrais juste dire que ce soit, on s'est rencontrés lorsque j'étais dans mes démarches, mon processus d'emploi au RAM, où j'ai eu la chance de découvrir l'écho du RAM, donc notre infolettre qu'on publie tous les lundis. Et j'ai vu passer, avant même d'être employé au RAM, une petite annonce où tu cherchais des participants à un projet de recherche en accessibilité du spectacle avec la compagnie du CEP. Et puis, c'était ton projet de doctorat, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Et puis, donc, j'ai participé à ce projet. Je me suis, avant même d'avoir été engagé par le RAM, et puis, ben, en ne connaissant strictement rien de l'accessibilité universelle à ce moment-là, j'avais beau avoir des problèmes de vision. Je n'y connaissais rien encore. J'avais pas assez des gros problèmes de vision pour m'y connaître en accessibilité universelle. Donc, tout ce que j'ai découvert dans les deux dernières années. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et puis, depuis, on a eu plein de chances de collaborer. C'est ça, je parle. Ça doit être parce que c'est la 20e. Et puis, ben voilà, parle-nous un peu là, de ce projet là, qui est en cours et puis qui a pris la forme d'un podcast aussi. Je voulais aussi t'interroger, te rencontrer aujourd'hui pour parler justement de cet aspect qui est quand même très accessible en ce moment, le podcast que tu as réalisé à partir du projet de comité du CEP.
Oui. Oui, c'est parfait, Alain, tu m'as bien présenté.
Désolée.
Mais non, c'est parfait. Ben oui, c'est ça, c'est un projet que je mène depuis un petit moment. En fait, le projet, le terrain de la recherche doctorale s'est fait en 2023. Puis je cherchais, en fait, c'est un comité qu'on a formé avec du CEP, puis une petite partie de recherche complémentaire qui a été fait à Maison Théâtre aussi. Mais en fait, ce que je cherchais à faire, c'était former un comité d'accessibilité qui réunirait et des dirigeants d'un théâtre institutionnel et des gens de la diversité capacitaire, mais toute diversité capacitaire confondu.
Comprise ou incluse?
Incluse, oui. Donc, on cherchait à monter un comité autour de 12, 13 personnes, si ma mémoire est bonne. Puis, Jean-Simon Traversy, qui est directeur artistique, co-directeur artistique chez DUCEP. Puis, ce qu'on cherchait à faire, en fait, c'était de faire différents allers-retours en salle de spectacle et puis d'avoir vraiment un échange, en fait, un partage d'égal à égal entre la direction du théâtre puis les spectateurs en diversité capacitaire pour voir comment on peut faire pour collaborer vraiment, comment les institutions culturelles peuvent collaborer avec leur public en diversité capacitaire vraiment d'égal à égal puis dans l'organisation de tout ça. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés quand je faisais mon recrutement pour ce terrain-là.
C'est ça. Et puis, ben, on parle naturellement d'accessibilité, dans le fond. D'accessibilité universelle à la culture, dans le fond.
Oui.
C'est un peu le but là, du projet.
Oui, bien ça a été une surprise, en fait, dans le projet. Bien, c'était ça le but de départ. Mais encore, parce qu'au départ, mon projet, c'était vraiment, je m'intéressais à ce que les grands théâtres institutionnels soient accessibles au plus grand nombre, mais en cours de route, puis dans mes recherches, puis même dans ma recherche maîtrise, je me suis rendu compte que ça dépassait la simple accessibilité en salle, puis que s'il n'y avait pas une collaboration entre l'institution puis le public, en tout cas, ça restait une accessibilité qui reste quand même plaquée pour moi.
Ouais.
Puis pour moi, l'accessibilité, c'est quelque chose qui est évolutif, puis qui est le développement d'une relation de confiance. Puis ça peut juste se faire avec une rencontre réelle, je crois, des publics puis de l'institution culturelle, ouais.
C'est ça, avec des publics qui ont des besoins, disons, particuliers, dans le fond.
Oui, parce que les publics sont les spécialistes de leur propre accessibilité, puis tu l'as vécu avec nous, mais chaque personne a des besoins particuliers, puis même dans notre comité, en fait, selon les statistiques, là, il y a une majorité de gens qui n'ont pas juste un diagnostic. Il y a une majorité de gens... Là, je n'ai pas les chiffres devant moi, donc je ne veux pas dire de niaiserie. Mais il y a une majorité... Il reste qu'il y a une majorité de gens qui ont souvent plus qu'un diagnostic, donc qui, quand ils vont en salle de spectacle, ont plus qu'un seul besoin. On va rarement avoir besoin juste de l'audiodescription juste de... d'une visite tactile ou juste d'une représentation décontractée, ils ont souvent plusieurs besoins, plusieurs outils à manœuvrer. Donc, en rencontrant les publics, ça permet en fait de mieux connaître les besoins, mieux cerner les besoins.
OK. Puis ben, j'aimerais que tu nous racontes un peu le parcours là, qui t'a amené à un projet de recherche de doctoral.
Oui.
De ce type, peut-être que je pense que c'est important peut-être de faire un petit retour là, sur comment tu en es arrivé à ce projet-là, parce que tu as quand même... Il y a toute une démarche derrière. Il y a une maîtrise aussi, entre autres, avant.
Mm-hmm.
Et puis, tout ton travail, là, comme je l'ai énoncé tantôt, qui tourne autour de toute cette problématique-là. Puis, bien, je pense qu'il y a quand même... je dirais pas un élément déclencheur, mais il y a une situation familiale, là, si on peut dire, qui a quand même déclenché un peu tout ton intérêt sur... toute cette problématique.
Oui. Bien, en fait, c'est que moi, j'ai une formation de comédienne au départ. Puis je suis vite tombée dans la médiation culturelle que j'aimais beaucoup, en jeune public particulièrement. Mm-hmm. Puis je travaillais dans un théâtre jeune public de la Montérégie. J'ai travaillé là quelques années comme coordonnatrice de la médiation culturelle.
L'arrière-scène.
À l'arrière-scène,
on peut le nommer.
Oui, à Belleuil. Puis, à Belleuil.
Bon.
Puis à un moment donné, bien, en fait, j'ai eu mes enfants à peu près un petit peu avant puis à peu près au même moment que j'ai commencé à travailler à l'arrière-scène.
Okay.
Puis mes enfants... ont eu un diagnostic d'autisme. Deux de mes enfants, j'en ai trois.
Okay.
Donc, ma fille en premier au départ, puis après ça, mon petit garçon peu de temps après.
Okay.
Puis moi, je connaissais rien à l'autisme du tout. Je je savais vaguement c'était quoi. Puis on est allé dans un musée, en fait, avec mes enfants pour voir une exposition. Ma fille, c'était une passionnée d'art, puis elle avait très hâte de voir. Il y a une exposition qu'elle voulait voir, puis elle était très contente, puis on l'avait préparée à ça. Puis ça a été une expérience traumatisante. Là. Ça a été extrêmement difficile.
Okay.
Ils ont eu les deux ont eu des crises d'hypersensorialité, mais vraiment comme dans le tapis. Puis,
ils avaient quel âge à ce moment-là?
Dieu, peut-être 5, 5-6 ans.
Quand même assez jeune.
Assez jeune. Pas plus que peut-être mon fils 5 ans, ma fille 6-7 ans, quelque chose comme.
C'est quand même assez jeune. Oui. On s'entend pour vivre, on vit des nouvelles expériences. Oui. Beaucoup à cet âge-là, que ce soit comme par sortie culturelle ou autre. Là.
Mais ça s'est très mal passé, ça a duré 15 minutes, puis ça a été dur pour ma fille aînée aussi, puis donc ça nous a un peu ébranlé parce qu'on s'est dit on pourra plus sortir.
Ouais.
Puis au même moment, moi, j'accueillais des élèves à l'arrière-scène, puis là, j'ai commencé à remarquer les mêmes réactions que mes enfants ont eues ou des réactions similaires, alors qu'avant, j'avais aucune idée. C'était même pas sur mon radar.
OK.
Puis là, je suis devenue...
des enfants tannants, c'est tout.
Oui, c'est
parmi
ça.
Parmi tant d'autres, dans le fond.
Oui. Puis là, en fait, je pense que j'ai connecté avec tu sais, l'inconfort. Avant, je n'avais pas cette sensibilité-là, je crois.
OK.
Puis là, j'ai voulu les aider. Puis je me suis dit, mais comment je peux faire au théâtre pour les aider à vivre une meilleure expérience? Puis il y a quelqu'un qui m'a suggéré de faire un projet de maîtrise, de soumettre un projet de maîtrise pour pouvoir faire une recherche avec ces enfants-là.
OK.
Parce que moi, je trouvais que pour mes enfants, entre autres, tout le monde parlait en leur nom. Beaucoup de spécialistes parlaient en leur nom. Puis eux, on ne savait pas exactement ce que eux avaient besoin. Puis comme parents, tu cherches des points de repère. Donc, voilà. Donc, moi, je voulais les entendre, eux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un projet de maîtrise avec 26 jeunes spectateurs autistes de 3 classes adaptées de la région. Puis ils sont venus au théâtre. Puis c'est eux qui nous ont dit dans leurs mots ce qu'ils avaient besoin quand ils venaient au théâtre.
Okay. Est-ce que c'était des jeunes qui étaient déjà venus à l'arrière-scène? Est-ce que c'était des jeunes issus du public déjà qui avaient peut-être pas nécessairement?
Pas nécessairement. Okay. Il y en a que oui, il y en a que non. Il y a des professeurs qui m'ont dit carrément qu'ils sortaient jamais parce que c'était trop compliqué.
Okay.
Donc, ça dépendait un petit peu de l'enseignant, je veux dire.
Okay.
Puis, puis il y a des enseignants qui sont sortis qui ont eu des mauvaises expériences.
Et puis est-ce que c'était tous les enfants étaient dans des écoles spécialisées?
Oui, ils étaient tous dans des classes spécialisées.
Okay.
Puis, mais ils étaient tous verbaux. Puis,
quel âge?
Ils avaient entre...
Excuse-moi, je te pose beaucoup de questions,
non,
mais c'est parce que c'est une entrevue.
Je suis là pour ça.
Je suis curieux.
Ben oui.
Mais oui, excuse-moi.
Ils avaient entre 8 et 14 ans.
Okay.
Donc, il y avait une classe secondaire puis deux classes de niveau primaire.
Parfait.
Ouais.
Merci.
Puis, donc, c'était des classes multiniveaux. Souvent, en classe adaptée, c'est des classes multiniveaux. Donc, c'est ça. Donc, ces enfants-là sont venus. Ils ont parler de leur expérience. Puis pendant qu'on faisait l'expérience de la maîtrise, moi, je faisais une revue de littérature, je suis tombée sur les Sensory Friendly Performances du Theatre Development Fund à New York, à Broadway, qui sont des espèces de représentations décontractées, mais plus axées sur le sensoriel. Puis j'en avais pas entendu parler, c'était en 2017-2018.
Okay, okay.
Puis j'ai demandé à mes employeurs si on pouvait essayer de faire un projet pilote.
Parce qu'à ce moment-là, tu travailles toujours
travaille
à l'arrière-scène
ouais.
Et puis tu travailles sur ton projet de,
oui.
de
et
ta
puis,
maîtrise.
Donc, on fait un essai, un projet pilote avec Simon Boulris, un spectacle de Simon. C'était un solo qu'il faisait.
Okay.
Puis on a eu on a eu plus de succès qu'on pensait qu'on allait en avoir. Et puis non seulement ça, il y avait le quart de la salle qui était des adultes. Puis qui n'étaient pas nécessairement autistes.
Okay.
Donc, ça nous a surpris parce que le spectacle était annoncé pour jeunes publics autistes. Donc, quand on allait voir ce public-là, savoir si passer une belle expérience et tout ça, on leur posait des questions parce que ça nous intriguait. Puis la plupart nous ont dit que c'était la seule façon qu'ils puissent avoir accès à une expérience de spectacle sur scène et tout ça.
D'accord.
Parce que sinon, c'est trop compliqué.
OK. Puis, donc, ça a été une représentation que vous avez faite ou le spectacle, toute la série de représentations était pour public.
On a fait une première représentation de ce spectacle-là en public familial.
Okay.
Puis par la suite, quelques mois plus tard, on a refait une autre représentation pour public familial et public scolaire, parce que je pense qu'on a fait deux ou trois en public scolaire parce qu'on avait des demandes en scolaire.
Okay.
Puis on l'a repris une troisième année. Puis maintenant, à l'arrière-scène, en fond, je crois encore, là, jusqu'à ce jour-là.
Okay.
Donc, c'est ça. Puis donc, ça a mis un peu la puce à l'oreille pour le doctorat, parce que même si je n'avais pas fini ma maîtrise, je me suis dit, mais attends, là, ça veut dire que c'est vraiment pas accessible à tout le monde. Puis moi, j'avais jamais pensé à ça avant, vraiment. Là.
Okay.
Donc, ça m'a intéressée de pousser plus loin avec des adultes aussi. Et aussi, j'avais remarqué qu'il y avait commencé à avoir des représentations adaptées ou des... à peu près au même moment, là, mm-hmm. il y a le CAM qui faisait des formations en représentation décontractée, tout
le
ça.
Le CAM qui est le Conseil des arts de Montréal.
Ouais. Puis, mais je remarquais qu'il n'y avait pas toujours des personnes en diversité capacitaire qui étaient dans l'organisation de ça.
OK, OK.
Et nous, on a fait quelques erreurs et c'est dû principalement au fait qu'il n'y en avait pas de personnes en diversité capacitaire qui étaient autistes dans l'organisation.
OK.
Et là, je me suis dit, mais attends, ça n'a aucun bon sens. Si y a ces initiatives-là, il faut que les gens fassent partie. Mais puis moi, je commençais à faire de la...
De médiation, de consultation.
J'étais commencé à faire de la consultation, puis c'est arrivé un petit peu par la bande parce qu'on a fait ça, puis il y a d'autres théâtres qui s'intéressaient, ils me demandaient comment on avait fait.
On pourrait...
Oui.
On prend une petite pause.
Oui,
désolé. Une petite gorgée d'eau et
oui.
puis on continue sur
Parfait.
Cette lancée vraiment intéressante. Alors, je suis toujours en compagnie de Evelyne Payette-Dalpé, donc chercheure à l'UQAM. Est-ce qu'on avait nommé ton université?
Non.
Non, mais c'est à l'UQAM. Hein?
mais je ne suis pas chercheure encore
non,
à l'UQAM.
Non, pas chercheure, tu es doctorante.
Je suis doctorante, oui.
C'est ça, excuse-moi.
Mais non, c'est correct. C'est juste, je ne veux pas que l'UQAM m'appelle.
Non, ben non. Moi non plus, je ne veux pas recevoir une plainte du CRTC.
Oui, c'est ça.
Pour fake news. donc, c'est ça, on parlait de ton travail de consultante. Finalement, tes expériences, c'est surtout, j'imagine, tes expériences à l'arrière-scène
mm-hmm.
qui t'ont amené justement à développer peut-être un réseau là, de théâtre qui s'intéressait à cette médiation que tu maîtrisais en accessibilité.
Oui, mais en fait, c'est qu'à ce moment-là, ça commençait tout juste les représentations décontractées. Il y a eu une formation que le CAM a donnée à peu près en 2017, okay. si ma mémoire est bonne, quelques mois avant que nous, on fasse... Oui?
Mais je t'arrête. Le oui? CAM, c'est ça, en tant qu'organisme subventionnaire là, en culture, je savais pas là, que le CAM pouvait offrir
des formations. Bien, en fait, c'est que des fois, ils font venir ils offrent des formations, ils font venir des conférenciers, tout
okay,
ça.
Okay.
Puis le CAM, qui est le Conseil des arts de Montréal, a offert une formation quelques mois avant que nous, on décide de faire... le test de la représentation. Ils ont fait venir le British Council. Puis le British Council, c'est un... Ils ont une spécialité dans les représentations décontractées.
Okay.
Parce qu'il faut savoir que dans la mouvance un peu des représentations adaptées, en Angleterre, c'est davantage des représentations décontractées.
Okay.
C'est ça, la nomenclature. Puis aux États-Unis, à ce moment-là, c'était des sensory-friendly performances qui étaient... plus axé sur le public, jeune public autiste. En tout cas, dans la région de New York, là, à Broadway, où il y avait, nous, d'où on s'est inspiré du protocole, en fait.
Parfait.
Eux, ils avaient fait une formation du British Council. Et donc, il y avait des organismes qui étaient là. Moi, j'étais des organisations culturelles qui étaient présentes.
Okay.
Nous, on n'y était pas présents, évidemment, parce qu'on était à Belleuil. Et puis...
c'est vrai.
Oui, donc il y a des établissements culturels qui commençaient à s'intéresser aux représentations décontractées, mais il y a aussi la compagnie Joe Jack et John qui ont offert une première représentation décontractée peut-être un mois ou deux avant que nous, on offre la nôtre.
Avec Simon Boulris.
Avec Simon Boulris. Donc, en fait, c'est tout ça pour dire que ça bouillonnait un peu. Puis il y avait comme une émergence de ça dans le milieu. Mais c'était très, très émergent encore. Ouais. Okay. Mais il y avait d'autres initiatives, peut-être dans le milieu muséal un peu plus, là, qui datent d'un peu plus longtemps. Puis des initiatives plus éparses, mais pas nécessairement concertées puis organisées. Ça commençait à bouillonner.
Okay.
Donc, quand on a fait ces représentations-là, c'est ça, il y a eu... C'était pas dans l'optique de ma maîtrise, mais c'était pour le plaisir de l'essayer, en fait, parce que c'était un petit peu par la bande, en fait, de ma maîtrise. C'est ça, j'ai été amenée à voir d'autres personnes qui étaient en diversité capacitaire que je n'avais pas remarqué avant. C'est bête quand on n'est pas confronté à ça. C'est une des raisons pourquoi c'est important pour moi ce contact-là. C'est difficile de voir les réalités des gens.
Oui.
On ne peut pas avoir idée. Donc, ça m'a comme vraiment un peu chicoté en fait, que c'était si fermé à autant de gens.
OK.
Et donc...
Tu parles des
représentations de spectacles, en fait, de l'art, des
non,
arts.
Non, mais quand tu as découvert, là, tu parles au niveau du LSQ ou d'autres types de représentations, tu parlais que tu as découvert...
Oui, bien, en fait, j'ai découvert qu'en fait, il y avait des adultes à la représentation jeune public qui étaient là parce que c'était leur seule voie d'accès qu'eux voyaient.
OK.
Puis donc... Ça m'a vraiment interrogée, puis je me suis dit, ben si je continue au doctorat, je vais pousser plus loin ça. Puis c'est ça, puis en même temps, à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à être appelée pour faire de la consultation, parce qu'on a offert cette représentation-là, il y en a d'autres qui ont voulu, ils en ont entendu parler, ils ont voulu l'essayer.
Okay.
Donc c'est vraiment un accident que je suis embarquée là-dedans, puis... Puis, en travaillant avec les organismes culturels, je me suis rendu compte que ils avaient beaucoup de volonté, ils ne savaient pas comment...
Par où commencer,
puis ils n'avaient pas nécessairement d'idée des besoins réels parce qu'ils n'avaient pas de contact avec ces publics-là. Ils ne savaient pas comment non plus entrer en contact.
OK.
Puis voilà.
Est-ce qu'on parle principalement de théâtre quand même tout le temps? Là,
oui,
comme
oui.
Consultation, on parle seulement de théâtre.
Bien, théâtre, art vivant, j'ai fait...
Spectacle de la scène.
Oui.
Art de la scène.
Oui.
Puis est-ce que à ce moment-là, donc, est-ce que la maison de théâtre offrait déjà ça ou pas du tout?
Non, la maison de théâtre, c'est arrivé plus tard.
Ni le Gros Bec là, à Québec, là, tout ça.
Non, c'est arrivé...
Belleuil était le centre de...
Non, on n'était pas le centre.
Au Québec, au Québec, vous étiez dans les pionnières, si tu veux.
Bien, c'est dur de dire ça parce qu'on ne sait pas s'il y a eu des initiatives en région. Tu sais, on ne sait pas toujours, on n'est pas au courant de tout.
Parfait. Okay.
Je pense qu'on faisait partie d'un, tu sais, espace libre, Joe Jack et John, tout ça. On était à peu près au même moment.
D'accord.
Oui. À peu près au même moment, mais je pense que notre particularité, c'est qu'on s'est intéressé au jeune public, puis pas nécessairement les autres compagnies.
Puis ben donc ensuite, tu termines ta maîtrise.
Oui.
Tu termines ta maîtrise et puis tu décides tout de suite de te lancer.
En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai terminé ma maîtrise dans la pandémie.
OK.
Puis je faisais un petit peu de recherche, puis j'avais ce projet-là en tête et puis j'ai demandé une bourse et je n'étais pas sûre de l'avoir. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu une bourse que je n'attendais pas.
Okay.
Donc, c'est ce qui m'a un peu lancée dans ce projet-là.
Tu as fait une demande pour une, puis tu en as eu une autre.
C'est ça.
Ah ben, écoute donc.
Oui, parce que je me destinais peut-être au travail social.
OK.
Puis j'étais comme en réflexion. Puis quand j'ai eu cette bourse-là, j'ai décidé de plonger,
Okay, une bourse d'excellence quand même, hein?
Ben oui, j'ai une bourse pas attendue. Là,
OK, c'est super, un cadeau.
Oui.
Je ne sais pas si c'est un cadeau du ciel, recevoir une bourse, faire un doctorat.
Je sais.
c'est un cadeau empoisonné,
oui,
on va dire.
Ça.
Et puis, ben c'est ça, donc on est en pleine pandémie, mais je reviens sur le fait que le CAM a commencé à offrir des formations et j'imagine que tout le courant d'accessibilité qu'on a eu en audio description, en LSQ, provient un peu de ce... de cette volonté du CAM. C'est des bourses du CAM là, qui ont amené, je pense.
Je ne sais pas si c'est des bourses du CAM, mais je sais que
qui a été un incitatif, en tout cas, qui a permis, ou qui a permis, plutôt, disons ça comme ça, ont permis certaines initiatives.
Je pense que c'était une mouvance qui avait commencé avant la pandémie. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont demandé des bourses avant la pandémie. Ils ont eu les bourses puis, ou les subventions, puis la pandémie a tout arrêté. Fait qu'il y a beaucoup de projets qui ont été reportés après la pandémie et d'autres qui ont demandé des subventions pendant la pandémie, ce qui fait qu'il y a eu un petit boom tout de suite après la pandémie, là, il y a comme 2 ans,
ça
a commencé à vraiment percoler l'accessibilité.
Différents publics.
Pour différents publics, puis ça a commencé à s'élargir un petit peu plus.
Okay.
Donc oui, il y a eu un effet, mais il y a eu un effet pandémique jumelé avec début de subvention.
Est-ce que pas de pandémie, on a eu de l'accessibilité, des projets d'accessibilité plus rapides, j'imagine? Ça aurait été mis en place,
probablement, oui, avant, probablement.
En 2018-2019, on aurait déjà été dans...
Oui.
Parce que si on prend densité, qui est dans déjà 3 ans... puis ben, même chose, là, on est comme quand même juste dans les 2 dernières années, là, le gros boom, si on peut dire, là, avec, en tout cas, si je parle d'accessibilité pour la communauté de personnes non-voyantes, malvoyantes, avec l'autodescription, la visite tactile. Mais effectivement, comme tu dis, Joe, Jack et John, qui eux avaient déjà, il y avait déjà des théâtres, des compagnies qui étaient déjà dans cet esprit-là. Là.
Bien, c'est une mouvance, moi, que je pense qu'il est là depuis début 2000.
Mm-hmm.
Puis ça vient du milieu muséal.
Okay.
Mais je pense que c'est ça, il y a eu un concours de... Moi, je vois qu'il y a eu 4 vagues à cette mouvance-là. Puis
okay.
Ce que j'ai... Dans le cadre de mon doctorat, j'ai interviewé 26 compagnies. Puis c'est vraiment le trait commun, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies. Il y a des compagnies qui faisaient déjà un travail de pionnier, là, comme densité depuis longtemps, puis de la recherche et tout ça. Mais il y a des compagnies qui ont demandé des subventions juste avant la pandémie. Ont obtenu les subventions, puis ça a été retardé à cause de la pandémie. Puis d'autres que ça s'est fait... Donc, il y a eu comme une espèce de vague. Ce que ça fait, c'est une espèce de vague après la pandémie.
OK.
Il y a eu toute l'incertitude de la pandémie aussi, là, tu sais, qui a plongé les théâtres dans...
OK.
C'était pas le moment idéal.
Non,
ben
non, c'est ça.
Fait que,
ça a permis de mettre, si je pense à ce que Maud de Densité nous raconte, c'est que ça lui a permis d'avoir du temps pour développer son public un à un avec des appels téléphoniques, le temps de pouvoir parler à chacun des spectateurs.
Oui.
Et puis, écoute, on prend une deuxième petite pause et puis on revient. Puis, je pense qu'on va parler du vif du sujet, c'est-à-dire le projet de comité du CEP. Donc, tu t'as mis en place là, à ce moment-là.
Vous écoutez Mission Vision avec Alain Renaud.
Alors, je suis toujours en compagnie de Evelyne Payette-Dalpé, donc doctorante en études et pratiques des arts. Je l'ai bien eu ce coup-ci, Evelyne. Merci. Donc, on parle de... on a fait un petit peu un résumé là, de ton parcours qui nous mène, au sujet principal de notre entretien, c'est-à-dire donc ton projet de doctorat, est-ce qu'on dit ça, un projet de doctorat?
Oui, on peut dire ça.
Ton projet de doctorat qui s'est fait auprès de en collaboration avec la compagnie du CEP.
Oui, oui. Mm. Quand j'ai embarqué dans le projet, j'avais vraiment envie d'avoir une institution culturelle de grande envergure dans le sens que je pressentais que ça allait, que le contact avec le public de la diversité capacitaire devait être, c'était un pressentiment, là, devait être plus complexe parce que probablement que c'était une structure qui était plus hiérarchisée ou plus compartimentée.
plus lourde.
Plus lourde, oui.
Mettons.
Puis, donc, moi, c'est ce qui m'intéressait au départ parce que je voulais voir comment, justement, quand c'était plus complexe, mm-hmm. je me disais, si on arrive à faire cet exercice-là avec un niveau de complexité plus élevé, mais c'est plus facilement réplicable après. Okay. Donc, c'était un peu l'intérêt au début.
OK. Donc, puis, tu m'avais dit que tu avais quand même fait des démarches auprès de la PDA, la Place des Arts,
oui,
au début.
Oui, au départ, le projet devait se faire avec la Place des Arts. Et aussi, à un moment donné, il était question que ça soit Place des Arts, du CEP, peut-être d'autres compagnies.
Donc, ça aurait été encore plus gros. Là.
Oui, ça aurait
vraiment,
été trop gros.
Ouais, mais ça aurait été une grande structure. Là.
Oui, mais ça a été... en fait, on était au sortir de la pandémie. C'était vraiment des situations complexes pour les compagnies. Puis, Place des Arts... Ils avaient des problèmes mais comme plein de structures, là, des problèmes de personnel, de rotation de personnel à cause de la pandémie.
Ouais, okay.
Puis ça rendait ça très, très complexe. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais quelqu'un m'avait parlé qui avait travaillé avec Ducep, un collègue à l'école m'a parlé de Ducep, puis du fait qu'ils étaient formidables, puis qu'ils étaient très ouverts.
Oui,
Ouais, puis donc j'ai approché Ducep, mais je les connaissais pas nécessairement.
OK.
Puis oui.
J'allais te demander, est-ce qu'à ce moment-là, il y a déjà des représentations accessibles qui se font au Rideau Vert? Avec Densité, est-ce que tu es au courant à ce moment-là quand tu approches du CEP?
Quand j'approche du CEP, Densité, ça fait quelques années qu'ils sont en travail, là, qu'ils sont en recherche et tout ça, peut-être mm-hmm. 2 ou 3 ans. Peut-être que je dis des ouais, mots ben... pourraient mieux
oui,
te
non,
dire
mais
que moi, mais probablement...
Toi, tu es consciente, tu connais, oui. Tu sais que ça existe,
oui.
C'est ça je veux dire.
Je connais les initiatives de okay. Densité, Rideau Vert, et au moment où j'en... Tendre ça et pas encore
en marche.
Et probablement en préparation
ça,
de ça.
C'est ça, mais il n'y a toujours pas eu.
Mais okay. pas en marche.
Donc,
c'est arrivé.
Il y a Joe Jack et John, que tu connais oui. à ce moment-là.
Oui.
Le Théâtre déchaîné, tout ça, est-ce que ça existe déjà?
Je crois que oui. Mais je ne veux pas dire de.
Okay, non, mais juste...
aux collègues, je suis désolée si je
oui,
dis
non,
des
non, niaiseries. Non, mais ce n'est pas des niaiseries, c'est juste savoir
oui.
le niveau là, de connaissances que tu as sur le milieu. Là.
Oui, oui, bien.
C'est plus savoir. Qu'est-ce qui existait aussi? Dans le fond, ma question, c'est qu'est-ce qui existait à ce moment-là?
Il y a les grands ballets qui offrent des représentations décontractées. Il y a le
déjà à ce moment-là, tu me dis oui, OK.
La TOHU, je pense, en
okay,
offre.
Okay. Mais on est seulement dans, je ne veux pas dire seulement, mais à ce moment-là, on parle seulement de représentations accessibles pour donc la communauté des jeunes autistes. Là. On est
mais
plus, là,
il y a plein d'initiatives qui se font un peu, mais c'est un peu éparse, en fait. C'est okay. un peu épars. Et donc, il y a tout le monde peut... un peu dans son coin. Donc,
okay.
Les grands ballets en font un peu.
Okay.
Densité, ils ont déjà une démarche assez solide. Il y a l'Opéra de Montréal qui offre aussi
plus
des...
Sur site,
mais ils sont... c'est pas nécessairement des représentations. Ils offrent des activités. TNM offre des activités aussi avec Théâtre aphasique, puis,
okay, okay.
Mais c'est des activités de création, donc de médiation.
Okay.
Pas nécessairement des initiatives d'accessibilité, mais quand j'arrive à la Ducep, c'est à peu près ça le
okay.
topo du terrain.
Mais tu connais l'audiodescription, tu connais
oui,
la LSQ, tu sais
oui.
que tout ça existe,
oui,
ou
oui,
vous êtes en train de prendre
oui.
Forme. Là.
L'affaire qu'il faut savoir aussi, c'est que nous, au Québec, on est extrêmement en retard.
Mm-hmm. Ça allait dire qu'on est extrêmement retardé, mais en retard, c'est plus...
non, on est en retard au niveau de l'accessibilité culturelle. Aux États-Unis, ça fait une cinquantaine d'années que ça existe. En Angleterre, ça fait à peu près l'équivalent.
Okay,
il y a des traditions philanthropiques qui sont très fortes aux États-Unis, puis qui porte à faire ça. Donc, nous, on n'est pas vraiment... Même en Australie, même en France,
okay,
qui
oui.
sont très avancés au niveau de l'audiodescription et tout ça. Donc, on est quand même assez en retard au
okay,
Québec. Donc,
okay.
je connais déjà un peu toute la structure
okay,
autour.
Parfait.
Mais c'est à peu près ça, le topo. Donc, quand j'arrive okay. à Ducep, c'est de ça que ça a l'air, le terrain. Et Rideau Vert et tout ça sont arrivés pendant qu'on était en terrain de Ducep, en
OK,
fait.
Parfait.
Ouais.
OK.
Ouais.
Donc, le projet qui va avoir duré, quoi, un an?
Neuf mois, à peu près.
Okay.
Sur le terrain comme tel, de préparation, ça a pris un bon deux ans.
OK, OK.
Puis, oui, c'est ça. Donc, je rencontre Jean-Simon et Amélie. Et puis...
Jean-Simon Traversy.
Oui, Jean-Simon Traversy, qui est le co-directeur artistique chez DUCEP, et Amélie DUCEP, qui est directrice générale chez DUCEP. Et donc, je les rencontre une première fois. Puis, on parle du projet. Puis, il y a des hésitations au début, parce qu'on est au sortir de la pandémie, parce qu'on a peur que ça soit trop gros à manœuvrer. Et finalement, ben Jean-Simon embarque. Puis, c'est là qu'on... C'est le reste, comme disent en anglais, « the rest is history ».
C'est une histoire, le reste est une histoire. Qu'on a mis en scène.
Oui, c'est ça.
Et puis donc, c'est ça, ben, je ne sais pas si on peut faire un résumé rapidement quand même. Là. L'idée, c'est qu'il y a eu des rencontres avec les participants qui ont répondu à ton appel, dont entre autres dans les faux du RAM. Fait qu'on était plusieurs, quelques personnes non malvoyantes, des gens avec mobilité réduite, problèmes de mobilité. On avait, c'est quand même, c'est tout un portrait hein, quand même, notre...
Oui. Oui.
Un groupe là, qui participait à cette
recherche.
C'était
un groupe extraordinaire, en fait, parce que c'était vraiment un groupe... j'aurais pas pu rêver d'un meilleur groupe. Là. Oui, il y avait des gens en malvoyants, non-voyants, sourdis, cécité. Qu'est-ce qu'on avait? On avait des gens en situation...
Des polytraumatisés, oui.
En situation d'aphasie, survivants d'AVC, traumatiques crâniens, autistes, maladies chroniques. On avait vraiment un portrait... on était
incroyable de diversité.
Oui,
là,
c'était un pâté chinois de... de toutes sortes de choses. Mais c'est ce qui a fait la richesse parce que, on avait vraiment aussi des gens qui étaient à différents stades dans leur
cheminement. On peut dire.
Oui, puis il y en avait que c'était très récent et d'autres qui avaient des diversités de naissance. Okay, donc, ça donnait vraiment un portrait très, très varié de tout ça. Là.
OK. Fait que donc, on a fait des rencontres.
Oui.
Des rencontres pré- et post, pas visionnement, mais...
Spectacle,
c'est-à-dire qu'on a assisté à trois spectacles du CEP.
Mais en fait, comment ça s'est déroulé, ce qu'on voulait, c'était d'avoir une rencontre vraiment des deux. Fait que moi, ce qui était important, c'était que les deux groupes... Bien, en fait, pauvre Jean-Simon, il se représentait lui-même. Et Jean-Simon, il a souvent dit qu'il voulait faire partie intégrante du groupe et qu'il n'y ait pas de différence. Mais que les deux réalités se rencontrent. Parce qu'il y a une réalité d'être à la direction d'un organisme culturel qui est particulière, puis les réalités des gens qui étaient là. Je voulais qu'il y ait vraiment une conversation, puis que tout le monde connaisse un peu ou en apprenne sur les réalités des uns et des autres.
Ben oui, c'est ça qui est intéressant. Entre autres, on découvre, par exemple, que le Théâtre du CEP est locataire de... la salle qui appartient à la Place des Arts.
Exact.
Et donc, les employés de la salle, ce sont des employés de la PDA, si je ne me trompe pas. Et donc,
ça change la donne en accessibilité.
Oui, du CEP peut décider, maintenant on va faire ci, on va faire ça, mais il doit transiger, il doit
collaborer avec la Place des Arts.
C'est pas simple. Ça, c'est un exemple, mais quand même, qui dit un peu sur la complexité de pouvoir mettre en place un projet, ça, par exemple, on parle d'accessibilité. Et on s'entend aussi que si on parle de déplacement ou de problématiques physiques, c'est sûr que c'est pas eux qui peuvent prendre la décision. On va enlever une rangée ou on va faire ci, c'est ça.
T'sais. Exact.
Fait que ça, c'est ce que tu dis là, par rapport au fait que nous, comme participants, puis nous, avec nos demandes ou nos espoirs, on est aussi confrontés aux réalités, là.
Oui. Puis il y a tout plein de réalités au niveau du financement. Chaque institution culturelle est financée différemment.
C'est ça.
Il y a des troncs communs, mais tu sais, les réalités sont pas les mêmes.
Mm-hmm.
Puis donc pour moi, c'est important que et les uns et les autres soient au courant des particularités de chacun. Donc ce qu'on souhaitait, c'était qu'il y ait d'abord cette rencontre-là. Ensuite, on avait sélectionné trois spectacles avec Jean-Simon.
On peut les nommer.
Oui.
Moi, je vais en nommer deux, puis toi, tu vas nommer le troisième.
D'accord.
Avec Gaspar Blues.
Oui.
Salle de nouvelles.
Oui, Manny Canetich entre les deux.
Ah, c'est ça, je voulais. Je savais que j'aurais pas réussi. Alors, voilà.
Mais c'est ça. Donc, avant chaque spectacle, il y avait une rencontre un peu pour préparer le spectacle. Ensuite, on allait en salle de spectacle avec le groupe, tout le groupe ensemble. Mm-hmm. Et ensuite, il y avait un retour sur l'expérience en salle.
Exact.
Et une préparation du prochain spectacle. Est-ce que par rapport aux, par exemple, à ce qui s'était passé à la dernière expérience. Mm-hmm. Et on a essayé quelques outils ou solutions qui ont été proposées en salle. On venait, on disait ça marche, ça marche pas. Et on a fait ça trois fois.
Ouais.
Ouais. Donc, ça a été ça un peu le trajet, en fait.
Okay.
Puis, en plus de ça, il y a eu des entrevues avec chaque... Parce que c'est important pour moi qu'il y ait des espaces d'expression qui n'étaient pas en groupe.
C'est ça, individuel.
Donc, chaque personne pouvait s'exprimer librement plus qu'en groupe. Donc, il y avait des entrevues après chaque...
représentation.
Bien, pas représentation, non. Mais chaque cycle qu'on faisait.
Oui, OK.
Donc, je rencontrais chacun individuellement. Puis, il y a quelques participants qui m'ont fait un journal aussi de spectateurs avec des réflexions écrites.
OK, OK. Donc, c'est ça, tu nous avais offert un peu le choix ou la possibilité si on voulait justement tenir un journal de bord ou quoi que ce soit. J'en avais commencé un en collage, mais je ne l'ai pas terminé. Alors, c'est devenu une œuvre autre. Désolé. Donc, c'est ça, pour avoir des retours puis avoir des impressions de chacun, c'est ça.
Puis avec ça, en fait, ce que ça a permis de faire, c'est une espèce de parcours. J'ai été capable de dessiner un chemin, un parcours qu'on a fait. C'était ça l'idée, en fait, de voir... Puis en dehors de ça, à part juste l'expérience en salle, ce qui est important pour moi, c'était de voir comment le comité fonctionnait. C'était quoi les irritants? C'était quoi qui fonctionnait? Qu'est-ce qui faisait que les gens se sentaient bien, se sentaient pas bien, qu'on travaillait bien ensemble? Puis il y a plein de choses qui sont sorties de ça qui sont aussi intéressantes que les expériences en salle, selon moi, puis qui en ont même parfois plus au niveau de l'accessibilité.
Okay.
Par exemple, le fait qu'au début, tous les participants s'adressent à moi, puis je suis comme l'intermédiaire entre Jean-Simon puis tout le monde.
Ouais.
Puis à la fin, c'est clairement dans les enregistrements, ce qu'on voit, c'est que je suis même plus là, vous parlez entre vous.
Entre donc, nous. Et avec
Jean-Simon.
C'est ça.
Donc, il y a un travail qui a commencé à se faire directement, puis parce que clairement, il y a eu le développement d'une relation de confiance.
Ben oui.
Et ça a été beaucoup dû au fait que Jean-Simon était très ouvert. Il était là, il était présent à chaque rencontre, chaque représentation, et très ouvert sur ce qu'il connaissait pas.
Ben, il était hyper chaleureux.
Oui.
Je veux dire, je l'avais nommé, mais tu sais, il nous recevait, il nous reconnaissait par notre nom, puis tu sais, on était dans une espèce d'extrême là où tu sais, wow, le directeur directeur t'accueille là, tu vois, j'en demandais pas tant là. Je veux juste une petite visite tactile, un peu d'audio description, je vais être très heureux, mais là, tu sais, si en plus on me reçoit, puis on m'amène à mon, c'est le directeur de la compagnie qui m'accueille, c'était comme wow. Non, mais il était vraiment présent. Puis très chaleureux, puis en même temps très franc aussi là, il y avait pas de
très franc,
il y avait pas de promesses là.
Ça a été très franc des deux côtés. Mm-hmm. Il y a une belle générosité de Jean-Simon, mais il y a une belle générosité de tous les participants aussi qui en ont donné.
Mm-hmm.
Les participants aussi se sont mis des fous parce que nous on avait un groupe de bénévoles, de 4 bénévoles qui entouraient les participants pour parce que moi j'étais en situation où j'observais tout ça, puis je voulais que les participants se sentent bien. Mm-hmm. Puis d'essayer de minimiser les inconforts, bien que je savais qu'il y en aurait. Mais donc, on a appelé 4... On a fait une petite équipe de 4 bénévoles qui étaient là, qui ont entouré l'équipe, qui étaient là juste pour les besoins des participants. Si un participant avait besoin d'aller aux toilettes puis que c'était compliqué ou qu'ils étaient là pour ça.
Mm-hmm.
Et puis, ce que ça a fait, en fait, c'est que les participants, ils ont été très généreux puis ils ont essayé des fois de se mettre dans des situations où ils prenaient pas les mesures qu'on avait mises en place juste pour se pousser dans leur autonomie, en fait, puis pour redonner un peu, pour pouvoir en témoigner après.
Ouais.
Par exemple, toi, je me rappelle que t'as essayé d'y aller seule.
Ben, j'ai pas essayé, j'ai réussi.
Oui, oui.
C'était
une première tentative pour toi la première fois.
Souvent, on fait des sorties, c'est rare qu'on fait des sorties seules, que ce soit au cinéma, au théâtre, ben, idéalement, là, c'est le fun de sortir avec une amie, un ami, tout ça. Puis je m'étais quand même donné le défi, moi, mes problèmes de cornée commençaient à devenir un petit peu plus sérieux. Je dis, il faut que j'apprenne à sortir seul. Puis c'est ça l'expérience, puis c'est ça le projet aussi.
Ouais, mais...
On parle d'autonomie, on parle d'accessibilité, mais on parle aussi, on l'a déjà nommé, il y a confrontation entre l'autonomie puis l'accessibilité.
Exact.
L'accessibilité où on la, tu sais, on veut trop accueillir, on veut,
ouais,
on veut dorloter, puis ou bien on veut faire de l'accessibilité mais juste un soir, tu sais,
ouais,
comme ça se passe en ce moment pour différentes raisons, où il va y avoir des représentations avec en LSQ, tout ça, mais ça va être une représentation pendant toute la série de représentations théâtre. Mais l'idée quand même derrière ça, c'est vraiment d'être que la personne soit autonome, être capable d'aller choisir la date, le jour, puis l'heure où elle va aller voir un spectacle. Fait que bon, moi, c'était comme un petit défi que je me donnais, mais...
Mais t'as pas été seul. Il y a eu presque la moitié du groupe qui se sont donné des défis différents. Tu sais, comme certaines personnes qui seraient venues peut-être en chaise roulante, sont venues avec une canne. D'autres qui auraient pris certains services s'en sont passés.
Okay.
Puis c'était vraiment dans... Puis c'est pas moi qui l'ai demandé, là. Quand je parle de générosité, je veux dire, les participants, ils voulaient... Faire se mettre au défi pour voir jusqu'où ils pouvaient pousser leur autonomie.
Oui, puis aller au-delà du,
aller comme au-delà
je,
de
du
leur,
projet de recherche, ouais, comme je te dis, où on était un petit peu trop dorloté, puis un peu trop, on était quand même dans une situation où, avec des bénévoles,
ouais,
avec l'accueil, faisait en sorte que c'est ça. Peut-être que je pense que... peut-être que certains d'entre nous, on a peut-être eu ce feeling ou cette impression-là, hey, j'essaie de passer au-delà de ça, là, pour véritablement faire l'expérience qui l'expérience dont comme elle serait en temps normal,
ouais,
et non pas dans le cadre du projet de recherche.
Ouais, moi j'ai une responsabilité éthique comme chercheur, puis j'ai un certain niveau de confort à m'assurer que
tout se passe bien,
que
pour
tout se passe bien, la sécurité des gens et tout ça. Donc
ça,
je mets des balises en place comme chercheur. On met souvent, on met toujours ça quand on travaille avec des êtres humains,
mm-hmm,
sur des balises en place pour s'assurer que tout le monde est en sécurité.
Ben oui.
Mais moi ça m'a beaucoup touchée que les participants d'eux-mêmes, parce qu'en fait, ce que ça m'a dit, c'est que vous étiez super investis.
Mm-hmm.
Puis vous étiez investis, puis Jean-Simon était investi. Ce que ça a fait, c'est que ça a comme vraiment fait un groupe qui a travaillé ensemble. Puis moi, je pense que ça, c'est... Moi, en rétrospect, puis ce que j'en retiens beaucoup, c'est que c'est vraiment le développement de cette relation-là qui est important.
Okay.
Ouais.
Écoute, on prend une petite pause,
oui,
une dernière petite gorgée d'eau, puis on revient, ben, je pense, peut-être parler justement des témoignages que tu as recueillis des membres, entre autres, des participants, et puis ben, le podcast
oui,
qui est maintenant en ligne. Bien, toujours en compagnie d'Evelyne Dalpé-Payette ou Payette Dalpé?
Payette Dalpé.
Non, c'est bien. Pour la troisième fois, je te nomme, je me trompe, mais c'est non à trop de noms.
Oui, j'ai trop de noms.
Désolé, Evelyne. Donc, ben, on est depuis le début de notre rencontre là, sur un projet de recherche comme doctorante avec le Théâtre du CEP. Et puis, ben on a fait un peu le tour de tout le projet, comment ça s'est déroulé, tout ça. Puis tu nous partageais là, les témoignages des participants. Et puis, c'est ça. Tu as enregistré plusieurs entrevues. Et puis, dans le but de ta recherche, mais tu n'avais pas pensé que ces enregistrements-là deviendraient, dans le fond, partie d'un podcast.
Non, pas du tout. En fait, c'est que dans ma méthodologie de recherche, moi, je faisais une recherche-action coopérative, puis dans une recherche-action d'inspiration coopérative, là, pas purement coopérative, les participants sont un peu co-directeurs de recherche.
OK.
Donc, co-chercheurs. Dans cette optique-là, moi, dans mon doctorat, je devais faire une diffusion de mes résultats. Ça fait partie de ma thèse.
Mm-hmm.
Et je n'avais pas décidé de la forme. Je voulais qu'on décide en groupe, que je trouvais que ça faisait partie de l'expérience. Et quand on a décidé, je posais la question aux participants, en fait. Ce qui revenait beaucoup, c'était une présentation des résultats dans un événement. Donc, on a commencé à travailler dans ce sens-là, mais pour toutes sortes de raisons, à cause du moment de l'année où ça devait se faire, disponibilité de local, disponibilité de personnes. En tout cas, ça a été très complexe, puis il y avait beaucoup d'embûches. À un certain moment, je me suis mis à penser à faire autre chose de plus simple. Et quand j'étais en analyse à ce moment-là de mes données, et en écoutant les entrevues, je me suis dit, mais c'est tellement bon. Puis je trouvais que ce que tout le monde disait, c'était tellement riche. Puis je trouvais ça dommage que c'était pas que ça prenait pas plus de place ou qu'on vous entendait pas. Et c'était une des options que j'avais dans mes idées originales de faire un balado, parce qu'en recherche, c'est quelque chose qui est pas qui est relativement nouveau, le balado comme transfert de connaissances. Pas si nouveau, mais quand même pas si récent. Et je vous en ai parlé. Et puis les participants sont embarqués. Puis en fait, je me suis servi de toutes nos entrevues de recherche, les entrevues de en groupe qu'on avait enregistré pour bâtir ce balado-là. Également, j'avais interviewé un monsieur qui s'appelle Carmen Papalia.
Ah oui, c'est vrai.
Qui est un artiste en art visuel non-voyant de Vancouver qui œuvre en accessibilité, qui a vraiment une philosophie d'accessibilité de laquelle je me suis inspirée pour notre projet.
Okay.
Puis j'ai eu la chance de faire une entrevue avec lui pour la recherche. Et l'entrevue était si extraordinaire que je me suis mis à construire le
podcast,
balado autour de son entrevue.
Okay.
Autour des entrevues de nos participants. Puis j'essayais de faire un petit peu, en fait, l'histoire de notre terrain de recherche pour que les gens vous entendent.
Et puis, est-ce que lui, il parle de galerie, entre autres, d'une galerie d'art.
Oui.
Mais est-ce qu'il travaille aussi au niveau des arts de la scène et tout ça?
Lui, c'est un artiste en art visuel.
C'est ça, on est en art visuel.
Ben, il fait de la performance aussi, beaucoup, en fait. Puis, lui, son parcours en accessibilité vient du fait que ses collaborations avec les galeries d'art, les musées, qui n'étaient pas très satisfaisantes à lui et à ses amis, qui étaient aussi artistes en diversité capacitaire. Et il a commencé à conseiller les galeries avec une approche qui parlait de collaboration, que lui appelait Open Access.
Okay.
Et c'est vraiment notre projet est vraiment inspiré très, très librement, mais inspiré de son approche à lui.
Lui, est-ce qu'il a écrit? C'est ça, il a publié, là.
Bien, il a fait plusieurs... Il continue d'œuvrer là-dedans. Okay. Il a fait beaucoup de collaborations. Il a fait beaucoup d'entrevues. On peut le voir. Si vous faites Carmen Papalia sur YouTube, vous pouvez voir son travail.
OK, OK.
C'est vraiment une personne extraordinaire, là.
Ah, bien, c'est super.
Oui.
Mais donc, tu connaissais son travail ou son approche depuis...
Je l'ai rencontré par la recherche, parce que je faisais de la revue littérature.
Okay.
Je m'intéressais au travail d'artistes de la diversité capacitaire.
Okay.
Et c'est comme ça que je l'ai rencontré.
Okay.
Ouais.
On peut peut-être quand même glisser un mot sur un comité auquel on participe, qui est quand même un peu dans cet esprit-là, hein?
Mm-hmm.
À la toute fin. Et puis, c'est ça, comment s'appelle ce fameux balado?
Ça s'appelle Dialogue. C'est un balado réflexion sur l'accessibilité. Donc, on ne prétend pas répondre à toutes les problèmes d'accessibilité, mais pour moi, c'est vraiment les réflexions qui émanent du projet de recherche et également un petit peu l'histoire de notre terrain, de notre aventure avec UCEP. Et avec d'autres, il y a des interventions d'autres intervenants qui ne sont pas des participants
c'est
de recherche
ça.
Aussi.
Mais pour justement mettre quand même faire vivre le balado. Là,
soit, pour suivre la réflexion.
Oui, puis l'enrichir aussi.
Oui.
Puis, écoute, on pourrait, on va inviter les gens à l'écouter, enfin les gens qui s'intéressent à cette problématique. Et puis, ça me fait penser, en l'écoutant, même si j'étais participant, on se souvient pas nécessairement de tout ce qui s'est dit, etc.
Sûr.
Fait que c'est pour ça que, autant comme participant, c'est un beau rappel. Et puis, c'est ça, il y a quand même des choses qui se disent là-dedans auxquelles on peut pas renier au fait que, l'accessibilité universelle a ses limites aussi. Tu sais, l'accessibilité pour un, ça peut être, je sais, parce qu'un des participants le dit, là, l'accessibilité pour un, c'est pas pour un autre. Ça peut mettre, venir en contradiction qu'on parle de, on en avait parlé, je me souviens, dans une des rencontres, là, mais tu sais, pour moi, le hall d'entrée de la place, la salle Wilfrid Pelletier, elle est super éclairée, puis pour moi, c'est merveilleux. Je vois bien, je suis content d'aller là, je m'y retrouve, tout ça. Alors que pour d'autres de nos participants, ben, eux, l'éclairage trop fort, ça vient les déranger pour X raisons. Donc, on a quand même tout ça là, qui est amené là, dans ces témoignages-là, puis dans le projet, qui sont c'est quand même toujours, je trouve, assez intéressant. Là.
Oui, bien, c'est très riche parce qu'on a des regards croisés là-dessus. Puis moi, c'est important qu'il y ait aussi des artistes de la diversité capacitaire qui soient là, fait qu'ils collaborent au balado. On a Théâtre Déchaîné puis le Bureau de l'APA qui font un travail en accessibilité créative puis qui ont vraiment des points de vue qui sont divergents de la parole plus consensuel qu'on entend. Là,
donc, le balado s'appelle Dialogue avec un S. Donc, on peut présentement le trouver là, facilement sur
YouTube. Présentement, il est sur YouTube, mais il s'en va sur... il va être hébergé par le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté, le CRIMIS. Okay. Il devrait sortir tout bientôt, les gens en une page.
On n'aurait jamais dû utiliser un carton. Non. Tellement tu l'as bien dit, Evelyne. Et puis, c'est ça. Donc, rapidement, on disait qu'on travaille sur... collabore en ce moment sur un comité sur l'accessibilité.
Qui roule
et la Ville de Montréal sur les maisons de la culture.
Oui.
Hein, à travers le réseau des maisons de la culture. Mm-hmm. Et puis, donc, ça, c'est un projet. Puis, juste rapidement aussi, on a collaboré ensemble sur le calendrier Altergo, donc sur toutes les représentations.
La première mouture.
Oui.
Ouais, avec la communauté de pratique.
C'est ça. Oui. Parmi tous les projets auxquels tu participes. Puis, c'est ça, juste rapidement, donc, du CEP, j'imagine, ils vont agir un peu après ce projet.
Ils ont mis en place un plan stratégique depuis la recherche. Okay. Puis, je vous invite à aller le voir. Sur puis là, il y a plein de petites initiatives ici et là qui poussent. Ils font bien ça.
Merci, Evelyne.
Merci.
Et puis, merci, Mathieu, aussi.
Bravo pour ton 20e.
Merci.